Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Présence, information, religieuse. Au programme, Mire mécréant. Les deux, solitude. Et retrouver la source vive. Bonne écoute.
Mire mécréant, une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 2 février 2023 dans Présence, information religieuse. Ainsi, le bibliste André Mire serait donc un mécréant, comme il le professe dans un livre aux allures de testament justement intitulé « La foi d'un mécréant », carte blanche 2023, 208 pages. J'ai peine à le croire. Mire, que je n'ai jamais rencontré en personne, a changé ma vie de croyant il y a 30 ans. J'étais alors dans la vingtaine, animée par un fort souci de justice sociale, et je m'éloignais de la foi parce que l'Église qui la portait ne me semblait pas à la hauteur de sa mission. Par chance, je suis tombée sur « Scandale, Jésus et les pauvres », Pauline, 1993, 64 pages, une brochure rédigée par Mire. « Le règne du Christ », écrivait le bibliste, « se réalise dans l'histoire quand des humains, à la suite de l'homme de Nazareth et sous la poussée actuelle du souffle du vivant, prennent intérieurement leur distance vis-à-vis de ces gouvernements ou autorités qui veulent asservir les humains. » Ces mots m'ont fait un bien énorme en me faisant comprendre que nous pouvions pleinement nous inspirer de Jésus dans l'engagement pour la justice, malgré notre malaise devant l'Église. Les turpitudes de la seconde ne devaient pas entacher, dans nos esprits, la figure exemplaire du premier. Mettre sa confiance en Jésus, suivre son chemin, ça pouvait vouloir dire, souvent, s'opposer à l'Église. Je n'ai jamais oublié la leçon. Jésus se radicale. La foi du mécréant, que réitère Mire aujourd'hui, c'est ça. Une foi marginale, contestée, attachée à la radicalité de l'Évangile, à sa dimension subversive et qui trouve dans la confiance évangélique l'énergie de faire arriver pour les pauvres une bonne nouvelle qui nourrira leur espoir à partir d'une lecture radicalement critique du système. La foi, clame André Mire, ne sert pas à fonder une religion de masse, mais à faire entendre la voix de la résistance de Dieu à un système pervers. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que l'agir dans la ligne de la confiance en Jésus ait comme conséquence de provoquer la colère des grands contre les partisans, surtout quand on considère que le Dieu de Jésus, comme l'écrivait Mire en 1993, est préoccupé de droit et de justice ici-bas, et a le souci des choses concrètes qui préoccupent les humains. Attention cependant, ce Dieu, que Mire appelle parfois la réalité, n'intervient pas directement dans le monde, ne fait pas le travail pour nous. Il nous invite plutôt à une transformation intérieure, qui nous pousse à faire assez confiance à Jésus pour participer à ses luttes contre ses ennemis. Le Jésus à qui Mire accorde sa foi n'est pas un bon monsieur qui se contente d'en appeler à l'amour universel. C'est un Jésus politique qui ne craint pas le conflit. Ma tâche est de jeter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il brûle déjà, dit-il, qui prend au sérieux la violence au cœur de l'existence humaine et qui ne cesse de proclamer aux grandes âmes des responsables que leur régime est pourri et en bout de course. Le Jésus de Mire, c'est le Jésus des pauvres, des vrais pauvres, qui annonce la fin de tous les privilèges, la destruction des amoncellements de richesses, la disparition des systèmes montés au profit d'une minorité, l'annihilation des religions qui se prétendent les familles exclusives de Dieu, des nations qui s'approprient les richesses de la planète, etc. C'est un Jésus qui énerve les dirigeants. La multiplication des pains, Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 44, ce n'est pas de la magie, c'est le miracle du partage. La guérison de la femme aux prises avec des pertes de sang qui n'hésite pas à toucher le manteau de Jésus, Évangile selon saint Marc, chapitre 2, versets 25 à 34, est d'abord une libération par rapport aux tabous imposés par le système. La foi qui déplace la montagne, Évangile selon saint Marc, chapitre 11, versets 22 à 25, c'est celle de la personne qui comprend que la vérité n'est pas dans le temple, justement situé sur la montagne en question, mais dans le cœur humain. Le Jésus de Mire ne cherche pas tant des disciples ou des apôtres que des partisans qui luttent avec lui ici-bas contre le mal, la religion et le système. Jésus n'est pas venu pour fonder une institution, et l'Église telle qu'on la connaît n'est pas dans l'Évangile. La foi ne se vit pas seule, reconnaît Mire, mais il suffit d'un petit groupe, deux ou trois, rassemblés en mon nom pour la faire vivre. Retour à la base. Né à Montréal en 1939, dans une famille peu fortunée mais aimante, Mire étudie chez les sulpiciens et chez les jésuites avant de devenir membre de ces derniers. Ordonné prêtre en 1970, il devient professeur de théologie à l'Université de Montréal jusqu'à sa retraite, non seulement de l'enseignement, mais aussi du sacerdoce et des jésuites en 1997, année de son mariage avec Lucie Lépine, intervenante en milieu populaire. Sa mécréance, toutefois, date de bien avant ce moment et a été nourrie par sa fréquentation de ces mêmes milieux populaires et par quelques expériences en Église. Alors qu'il a presque 40 ans et vit dans une maison avec une dizaine d'étudiants jésuites, Pedro Arrupé, le général de la compagnie, lui intime de quitter les lieux parce qu'on le considère théologiquement dangereux pour les plus jeunes. L'Église, constate-t-il à ce moment, est un système comme un autre, sachant punir qui la conteste. Avec le temps, Mire en vient à comprendre que Dieu, ou la réalité ultime, se laisse uniquement trouver parmi ceux et celles qui vivent à la base la plus écrasée de l'humanité. Il dit aujourd'hui écrire pour ses tout-petits qui lui ont appris les secrets de la vie en espérant pouvoir leur dévoiler tout ce qu'il leur doit. Le traditionnel credo de l'Église ne l'intéresse donc plus. Ce qui lui importe maintenant, n'est pas de savoir s'il croit à la Seigneurie ou à la résurrection de Jésus, mais de répondre, par ses actes, à la question suivante : comment ta vie montre-t-elle que Jésus est ton Seigneur et que, selon toi, il est vivant ? Par rapport à l'Église, Mire se dit donc mécréant, comme Jésus, en qui il met sa confiance, l'était ajoute-t-il. 30 ans après ma première rencontre livresque avec lui, André Mire me bouleverse encore. Sa foi de mécréant contient de belles promesses de libération, mais elle s'avère terriblement radicale et exigeante. En ai-je le courage? C'était Mire mécréant, une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 2 février 2023 dans Présence, Information religieuse.
Les deux solitudes. Une lettre ouverte signée par les membres du conseil d'administration de la semaine de la sensibilisation musulmane, parue le 3 février 2023 dans Présence, Information religieuse. Certains journalistes ont déclaré qu'alors que la création du poste de représentant de la lutte contre l'islamophobie devait supposément atténuer les tensions, la nomination d'Amira El-Gawabi les a aggravés. Nous, de la Semaine de la sensibilisation musulmane, SSM, croyons que nommer une personne pour combattre le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme, ce n'est pas tant pour calmer le débat, car le débat dans le respect doit avoir lieu, mais c'est surtout pour analyser les tenants et aboutissants de ces phénomènes de rejet pour y trouver des solutions adéquates. La sortie du ministre Jean Boulet pendant la campagne électorale dénigrant faussement tous les immigrants n'a pas soulevé un tollé aussi extrême que celui qu'affronte Mme El-Gawabi. Nous nous demandons si le fait qu'elle porte le hijab, donc qu'elle est musulmane, a accentué sa condamnation. S'agit-il de géométrie variable? En effet, nous constatons que la liberté d'expression ne se manifeste pas au même degré selon qu'on appartient à la majorité ou à une minorité. Sensibilité québécoise. Nous croyons fermement qu'il est essentiel de faire très attention à l'utilisation de termes qui risquent de mener à des controverses catastrophiques. Par exemple, si Amira El-Gawabi avait écrit dans la fameuse citation qui fait tellement de vagues, « des Québécois au lieu de les Québécois », la nuance aurait modifié le message. Des incompréhensions de part et d'autre persistent dans notre société à cause de plusieurs malentendus. Il aurait été souhaitable que Mme El-Gawabi connaisse certaines sensibilités québécoises afin de ne pas bloquer le dialogue. La journaliste Hélène Buzetti mentionnait à Radio-Canada qu'au Québec, la religion représente une idée, donc est objet de débat, alors qu'au Canada, la religion représente une identité. Le fait que la religion soit une composante des identités multiples des Québécois musulmans ne rend pas ceux-ci insensibles aux enjeux de notre société. Nous sommes d'accord qu'il y a des islamophobes au Québec, peut-être comme partout dans le monde, mais nous sommes loin de croire que la majorité de nos concitoyennes, de nos concitoyens, sont islamophobes. Cependant, nous affirmons que la loi 21 est discriminatoire. Considérons seulement ce qui concerne les musulmans. Si une femme a un hijab et un homme musulman se présentait à un poste d'enseignant, la femme serait éliminée d'emblée. Où est l'égalité femme-homme, un principe que cette loi est censée défendre? Une fonction essentielle. Le poste auquel Mme El-Gawabi a été nommée est essentiel pour le Canada, pour le Québec. Certains prétendent qu'on aurait été mieux avisé de ne pas utiliser le terme « islamophobie » qui joue le rôle d'un drapeau rouge. Nous pensons au contraire qu'il faut mettre le doigt sur le bobo pour le diagnostiquer de façon à prescrire le traitement adéquat. Il faut que les politiciens et les faiseurs d'opinion s'assoient avec Amira El-Gawabi pour des échanges sincères, sans lesquels aucun pont ne pourrait être construit. Nous, concitoyens québécois, dotés d'identités multiples, devons pratiquer l'écoute active pour parvenir à dissiper les malentendus entre les deux solitudes. Au fait, en sommes-nous rendus à trois solitudes? Le Rock, Rest of Canada, le Québec et l'Islam? C'était Les deux solitudes, une lettre ouverte signée par les membres du conseil d'administration de la Semaine de la sensibilisation musulmane, parue le 3 février 2023 dans Présence, Information religieuse.
Retrouvez la source vive, une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 15 février 2023 dans Présence, Information religieuse. Au Québec, comme ailleurs en Occident, le christianisme ne vit pas ses meilleurs moments. Sur le plan institutionnel, de multiples scandales l'ont entaché. Sur le plan des idées, la situation n'est pas rose non plus entre des conservateurs passionnément attachés à des rites et à des règles déphasées et des déserteurs réfugiés dans la colère ou l'indifférence, les chrétiens raisonnables qui s'arc-boutent sur le message évangélique pour mieux vivre dans le monde actuel qu'ils aiment et contestent tout à la fois, ont de plus en plus l'impression de parler tout seuls dans le vide. Le christianisme a-t-il encore un mot à dire? Peut-il s'inviter dans la conversation du monde et y porter une proposition d'espérance? Demande la journaliste Christine Pedotti et la bibliste Anne Soupa dans « Espérer » Albin Michel 2022, 216 pages, un tonifiant essai qu'elle présente comme un manifeste pour la renaissance du christianisme. Pedotti et Soupa sont des catholiques de gauche. La première dirige la revue Témoignages chrétiens et la seconde a présenté sa candidature au poste d'archevêque de Lyon. Elles défendent, dans plusieurs dossiers épineux, des positions féministes et progressistes. En matière d'avortement, elles affirment que la décision appartient aux femmes. Dans le débat sur l'aide médicale à mourir, elle plaide aussi pour la liberté de choix, tout en insistant sur le fait qu'il n'y a pas d'indignité dans la maladie et sur l'idée que, nul n'étant une île, la décision concernant la fin de la vie doit tenir compte des autres qui nous entourent. Pour elle, enfin, l'option préférentielle pour les pauvres n'est pas qu'un devoir spirituel, et doit avoir des incidences politiques. Dans « Espérer », Pedotti et Soupa ne proposent pas, comme elles l'ont déjà fait et continueront certainement de le faire, une réforme de l'institution catholique ou de la doctrine. Leur intention, cette fois, est plutôt philosophique et existentielle. Il s'agit, explique-t-elle, de tenter de retrouver la source vive du christianisme qui pourrait irriguer à la fois chaque vie humaine et l'humanité entière dans sa façon de se penser, de se situer dans le monde et dans l'histoire. Pedotti et Soupa, dans ce livre, ne parlent pas de l'Église. Elles parlent de la foi en Jésus, cet homme en marche, en chemin, libre, qu'il s'agit de rejoindre non dans la lettre, mais dans l'esprit. Dans ces incarnations institutionnelles, notent les essayistes, le christianisme a trop souvent soutenu les puissants et prêché la résignation aux pauvres et aux opprimés, Mais les petits, les courbés, les assignés ont aussi entendu résonner la puissance libératrice de l'Évangile. Une école de liberté. Le christianisme, insiste Pedotti, est une école de liberté. L'épisode du jeune homme riche, Évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 22, lui sert d'illustration. Quand Jésus lui dit de donner tout son argent aux pauvres afin de pouvoir le suivre, l'homme décide tristement de partir. Ce récit, note Pedotti, rappelle que notre liberté est entière, même face à Jésus. Le jeune homme, malgré son choix, n'est pas condamné par Jésus, qui le regarde même avec amour, selon le texte. Moyennant un effort, il pouvait dire oui. Il a dit non. Il est triste, mais il est libre. Et cette liberté, quoi qu'en disent les tenants du déterminisme de tout poil, biologique, social, psychique, est la nôtre. Cette affirmation d'une liberté de reste, au-delà de toutes les assignations sociales, culturelles, économiques, capables de réparer les blessures, de remettre en marche, de rouvrir l'avenir, est sans doute l'un des grands trésors du christianisme et celui qui mérite d'être considéré à nouveau frais, écrit Pedotti. Dans l'optique de l'anthropologie chrétienne, cette liberté vient aussi du fait de l'altérité de Dieu, de son mystère. Nous voulons le trouver, mais il nous échappe. Croire le contraire, c'est s'abîmer dans l'idolâtrie. Ainsi, prétendre savoir ce que Dieu veut ou interdit est une escroquerie, tout comme l'est le fait d'affirmer, dans la logique du providentialisme protestant conservateur, que l'ordre du monde est décidé d'en haut. Si le monde est parfait, si le royaume est déjà là, où va le cri des petits et des malheureux qui montent du peuple, s'insurge Soupa. Oui, ajoute-t-elle, Jésus est avec nous, il nous accompagne, mais il ne règle pas l'ordre du monde, qui relève de notre responsabilité. Et dans l'espérance de le rencontrer pleinement à la fin, nous suivons Jésus en luttant avec lui contre le mal. Dignité et responsabilité. Du paradis espéré, nous ne savons rien, note Pedotti, mais la résurrection annoncée, qui suit l'inévitable épreuve de la croix, doit nous donner la capacité et le désir de relever tous les défis, d'affronter les difficultés, puisque, dans la foi, nous tenons l'issue pour certaines, c'est-à-dire, selon notre espérance, que ni le mal ni la mort n'auront le dernier mot. Mais pourquoi sauver l'humain ? Demandent certains courants écologistes radicaux qui accusent ce dernier de détruire la vie et la planète. Il est vrai, explique Pedotti, que la Bible affirme la haute dignité de l'être humain et le place au sommet de l'échelle du vivant. Ce statut, toutefois, n'est pas une licence pour le despotisme, mais une injonction à la responsabilité. L'humain, dans la logique judéo-chrétienne, est un être dont un autre, un tu, Dieu, a le souci, et qui tient de ce souci sa propre responsabilité au sein de l'univers et du reste du vivant dont il est à la fois dépositaire et solidaire. L'humain, en d'autres termes, n'est pas le propriétaire du monde. Il doit plutôt en être le bon gérant. Un christianisme généreux et moderne. En ces temps incertains, souvent inquiétants, où les problèmes en tout genre, réchauffement climatique, migration désordonnée, crise des démocraties, guerre, s'accumulent et où nos anciennes boussoles, grandes idéologies, systèmes religieux, sont enrayées, le christianisme, écrit Anne Soupa, offre une dynamique de libération, à même de nous affranchir de nos servitudes volontaires ou involontaires, notamment en nous rappelant que l'argent n'est pas roi, c'est le bien des êtres humains qui prime. Le mot qu'il a à dire au monde, aujourd'hui encore, ressemble à ceci. L'humain est libre, digne, ouvert à une transcendance qui lui donne la responsabilité, mais aussi la force d'affronter les épreuves dans l'espérance que le mal inévitable ne gagnera pas. Le christianisme n'est ni une morale, ni une ascèse, écrivent Pedotti et Supa. Il n'est pas d'abord une institution non plus. Il consiste à suivre Jésus dans la joie sans jamais se résigner à ce qui blesse l'humain. Une fois encore, les deux égéries de la gauche chrétienne féministe française stimulent notre énergie croyante en nous invitant à partager un christianisme généreux et moderne à hauteur d'homme et de femme. C'était « Retrouver la source vive », une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 15 février 2023 dans Présence, information religieuse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.